Buzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Comment s'est fait la rencontre avec l'intéressé, avec Robert Wyatt?
En fait, Wyatt, j'étais en contact avec lui depuis un petit moment, mais d'une manière, je me souviens même pas comment ça a démarré. Mais en fait, j'avais plus ou moins, je crois, envisagé de l'inviter sur un projet que je faisais, mais je me souviens même plus quel était le projet. Ce dont je me souviens, c'est que finalement, j'avais laissé tomber.
Donc, vous l'aviez rencontré avant?
Je l'avais pas rencontré, on s'était parlé. Et on s'était échangé de la musique. Enfin, moi, je lui avais envoyé des trucs auxquels il avait réagi de manière assez positive et tout ça. Donc, même plutôt enthousiaste. Voilà, et donc, je savais que c'était quelqu'un qui était assez à la fois complexe et abordable aussi. Complexe parce que c'est un personnage. Assez imprévisible et qui n'a pas envie du tout d'avoir de contraintes. Et qui a aussi, alors ça c'est étonnant, mais de ce que j'en perçois moi, c'est que Wyatt, c'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes sur lui-même, sur ses capacités à faire les choses, sur aussi son côté autodidacte, qui est un truc qui revient tout le temps. D'ailleurs, il dit... Enfin, il m'a envoyé pas mal de lettres et tout ça, parce que je lui ai envoyé la musique au fur et à mesure, et puis... je lui ai envoyé un peu de musique dans un premier temps, il a tout de suite réagi, il m'a écrit... il envoie toujours des lettres avec des dessins, des choses hyper poétiques, enfin bon... Des messages politiques dedans, parce que c'est quelqu'un de très engagé, je lui ai envoyé des trucs, c'est quelqu'un qui réagit très spontanément et à la fin du processus, donc je lui ai envoyé l'album entier, et en lui disant, j'aimerais bien que dans le disque, il y ait un petit mot de toi qui n'a pas besoin d'être un truc où tu nous cires les pompes, c'est pas ce qu'on cherche, c'est juste qu'est-ce que ça a représenté pour toi de vivre cette aventure, à la fois de donner ces voix et puis après de les retrouver habillés complètement différemment, d'entendre des interprètes que tu connaissais pas forcément chanter des mélodies qui ont été gravées sous une autre forme. Et j'ai demandé ça à tous les artistes. Et Wyatt a envoyé une enveloppe avec des morceaux de nappe, des trucs. Enfin, c'est vraiment un truc magnifique, quoi. C'est à la fois totalement bordélique, parce qu'il écrit des trucs sur l'enveloppe elle-même, des trucs par rapport au mix, enfin des trucs qui lui sont revenus au fur et à mesure, qui devait se préparer à aller à la poste, ou j'en sais rien. Je me souviens simplement de la fin du mot qu'il écrit, mais il dit... I'm not a trained musician, but if I was, I would like to think this is the kind of record I would do. C'est-à-dire, je ne suis pas un musicien éduqué, mais au sens où je n'ai pas appris la musique d'une manière classique, mais si je l'avais été, peut-être que c'est le genre de disque que j'aimerais faire. Bon, c'est marrant parce qu'il a cette espèce de rapport à l'éducation musicale, il se présente toujours comme un mec assez basique, qui comprend pas grand-chose à grand-chose. Bon, après, c'est aussi parce qu'il a beaucoup d'humour et qu'il a un humour très british et qu'évidemment, il y a toujours cette espèce d'autodérision qui est assez savoureuse, quoi. Mais il y a quand même ce côté-là. C'est quelqu'un qui dit beaucoup non aux gens parce qu'il a peur, en fait. Il dit pas non parce qu'il veut pas, il dit non parce qu'il a peur. C'est aussi pour ça qu'il a un mal fou à monter sur scène, parce que je pense qu'il a aucune confiance. Enfin, il a pas le... Je sais pas, je pense qu'il est, il est pas fabriqué vraiment pour ça et il a pas envie de se mettre une pression colossale pour être malheureux pendant deux heures sous les projecteurs quoi. Enfin moi je le vois un peu comme ça. Après je suis pas son ami et je passe pas mes journées avec lui donc je peux pas non plus j'en sais pas beaucoup plus hein, mais en tout cas c'est un personnage super attachant et c'était intéressant aussi parce que sa réaction par rapport à à ce qu'on a fait, parce que bon, il n'a pas les oreilles dans ses poches, donc évidemment, il entend les références, il entend qu'on a complètement réharmonisé une chanson à lui. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Vandalousia, qui est sur le disque, et en fait, quand Wyatt a enregistré ses voix, j'ai donné à Vincent Artaud la voix de cette chanson. Et il se trouve que par chance, Vincent connaissait pas l'original. Et j'ai pas voulu qu'il l'écoute. Et je lui ai dit, écoute, fais ce que t'entends là-dessus. C'est-à-dire, mets les accords que t'entends. Bon, donc on a travaillé ensemble là-dessus. Moi, je connaissais l'original, mais je me suis bien gardé de donner des informations là-dessus. Et donc, du coup, on est parti dans des univers harmoniques complètement différents de la chanson de Wyatt. Et on l'a fait ça pour pas mal de chansons. Et Wyatt me disait, putain, il y a des trucs qui sont complètement méconnaissables, alors que pourtant les mélodies sont les mêmes, etc. Et bon, je savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Je me disais, peut-être que ça l'emmerde, peut-être qu'il a, il l'a mal vécu, peut-être que... Et je lui ai dit, mais tu sais, moi, si je veux... Enfin, quand j'aime la musique de quelqu'un, la meilleure chose... Enfin, la pire chose que je pourrais faire, c'est essayer de refaire la même chose... parce que je suis sûr de me planter. Donc voilà, c'est pour ça tout à l'heure que je parlais du fait que c'est pas réellement un hommage. C'est un truc qui gravite autour d'une personnalité, qui irradie tout ce disque. Tout à l'heure, on parlait d'admiration pour l'œuvre de quelqu'un, etc. C'est vrai que moi, j'ai une certaine admiration pour Wyatt, mais c'est même pas... le mot admiration, c'est pas vraiment un truc... que je ressens finalement, c'est pas de l'admiration, c'est simplement que je trouve ça assez fascinant, mais je suis pas admiratif de... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais moi j'ai pas tellement cette case-là d'émotion, d'avoir de l'admiration pour les gens. J'ai plutôt une attirance pour un univers... Je peux être fasciné par quelque chose, mais je suis pas en train de me dire « Oh, c'est génial, j'ai réussi à faire un truc avec Robert Wyatt, je suis... »
Pas dans l'idolâtre.
Qu'est-ce que j'aimerais avoir, une photo où on est tous les deux ? C'est des choses auxquelles je pense pas du tout. Mais alors vraiment, d'ailleurs, j'ai pas de photo, et je collectionne pas les trucs qui pourraient être un peu du fétichisme de fan 2, etc. Parce que je pense qu'en fait, c'est aussi parce que si j'étais comme ça, je pourrais pas faire les projets que je fais. C'est-à-dire que si j'étais fan, si je me comportais comme un fan avec Wyatt ou avec Donald Fagen, avec lequel j'ai enregistré il y a pas très longtemps, qui a été assez exécrable au début de la séance et qui... parce que je n'étais pas justement dans l'admiration, est devenu super collaboratif, je ne sais pas comment on dit, et finalement très sympa, c'est que en fait, dans ma position, quand je suis directeur artistique, si je commence à être dans l'admiration des gens, je suis foutu. Mmh. Et parce que ces gens-là vivent au quotidien un truc où ils ont... autour d'eux que des gens qui les admirent, que des gens qui rient à leurs blagues, même si elles sont foireuses, qui rient, enfin qui sont d'accord avec eux sur tout, etc. Et quand on est en fait directeur artistique, on est un peu dans la position d'un psy, c'est-à-dire qu'on va pas commencer à rentrer dans, à s'approprier les névroses des gens avec qui on travaille, ou à rentrer dans des espèces de délire d'admiration, de... Moi, justement, ce qui m'intéresse quand je collabore avec des gens, c'est peut-être de les amener vers autre chose que ce qu'ils sont. En l'occurrence, avec Donald Fagen, c'était assez troublant, parce que ce qu'il fait sur le disque en question, c'est... Mais alors, à l'opposé de l'univers de Steely Dan et tout ça, et c'était ça que je trouve... Enfin, c'est ça que je trouve super généreux, finalement, de la part de certains artistes. Mais pour pouvoir faire ça, il faut pas être en train de se dire oh là là, je suis tellement fan de vous, je voudrais faire la même chose que vous, même si c'est pas tout à fait aussi bien. C'est pas du tout de la prétention, hein, c'est simplement que je pense qu'il faut se détacher un peu de cette espèce d'attitude en se disant bah voilà, moi je, il faut que je fasse mon truc, donc de toute façon j'ai pas le choix, je vais pas aller, je vais pas me restreindre à un truc où je vais essayer de fabriquer un piédestal encore plus grand pour quelqu'un. Mais je vais plutôt l'inviter à jouer dans ma chambre avec mon train électrique, quoi, et puis voir comment il s'en sert, s'il accroche les wagons de la même manière que moi, s'il sort des rails au même moment, ou si, je pense que c'est vraiment un truc d'échange. Et donc après, c'est pas lié à la notoriété, c'est pas lié à la dimension artistique, c'est plus lié à une espèce de d'ouverture, à une vraie collaboration en fait, quoi.
Vincent, le son est pas mal. La wah-wah, j'ai un petit doute parce que c'est super connoté. Ouais. Ben, par contre, je me demande si ce serait pas intéressant d'utiliser ce genre de son pour faire plus des notes, quoi, pas, mais pas forcément des trucs supra-rythmiques, d'envoyer des trucs au volume, de faire des choses. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'alterner, enfin c'est vrai que t'as pas beaucoup de temps, mais d'alterner des trucs un peu au volume et puis une phrase à donf, enfin tu vois. Je pense que ça pourrait marcher. Je me demande si on devrait pas le mettre en boucle.
Ce train électrique qui est très studio, comment on le promène sur scène?
Bonne question. En fait, le projet, en fait, ce projet, je l'ai tout de suite pensé comme un projet à la fois de disque et de scène. Ça fait partie aussi, d'ailleurs, des choses auxquelles on pense quand on est directeur artistique d'une structure comme celle-là, parce que moi, quand je fais mes disques, je pense pas forcément à la traduction sur scène de la musique, c'est pas forcément la première chose qui me concerne, même si après j'y réfléchis forcément. Mais
surtout avec ce projet qui est très studio, enfin quand on
ouais, voilà, vraiment. Ouais. Alors là, en fait, moi j'avais complètement pensé le truc en amont, en l'occurrence, c'est-à-dire que je m'étais dit de toute façon, il n'est pas question. Je voulais exactement garder la même démarche que celle du disque, c'est-à-dire que je me suis dit bon, de toute façon. Les voix, c'est le point de départ. Les voix, ça a toujours été des espèces de fantômes pour tout le monde, finalement, parce que les musiciens, ils n'étaient pas là pour les séances d'enregistrement des voix. Ils n'ont pas vécu ce que moi, j'ai vécu. Et finalement, ils travaillent autour de ces espèces de personnages un peu fantomatiques. Et c'est ce qui a donné peut-être cette espèce de côté un peu magique du disque, enfin j'espère. Et sur scène, je veux que ce soit la même chose finalement. C'est-à-dire qu'on va, jouer sur les voix préenregistrées. On a eu l'accord des musiciens, enfin des chanteurs qui ont participé de tous sans exception pour le faire. Et donc voilà, et en fait, ce projet scénique est un spectacle en fait, qui a vraiment vocation de plonger dans un monde de la tête aux pieds. Quoi. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout un travail sur l'image qui va être fait par un vidéaste qui s'appelle Antoine Carlier, avec lequel je travaille depuis assez longtemps déjà, qui a une écriture très cinématographique. C'est pas du tout un VJ, hein, c'est vraiment quelqu'un qui écrit ses images. Et qui a aussi un rapport au rythme et au temps qui est celui d'un musicien, puisque c'est un ancien batteur et qui comprend vraiment l'intérieur, les arcanes rythmiques de la musique, etc. Donc là, il est en train justement de travailler là-dessus. Et donc, ça sera une espèce de plongée dans un univers un peu onirique. Où évidemment les images sont pas là du tout pour pallier à l'absence des chanteurs, mais sont là pour emmener les gens dans un monde aussi visuel, qui est aussi d'ailleurs un peu ce que j'ai cherché à faire sur le disque, c'est-à-dire c'est un disque assez, assez visuel pour moi, quoi.
Pour terminer, vous allez peut-être pouvoir nous parler des prochains projets de l'ONG, dont un notamment autour d'une des idoles justement de Robert Wyatt, c'est Billie Holiday.
Ouais. C'est marrant d'ailleurs. Donc il y a un projet autour de Billie Holiday qui s'appelle Broadway in Satin, qui alors ce projet-là, il a un peu à l'inverse de du Wyatt, c'est un projet qui est il y a pas sur scène, il y a pas d'image, il y a deux chanteurs en chair et en os. C'est un truc assez mobile et assez voilà. L'idée en fait c'était simple, c'était que il y avait encore ce côté. Alors là, en l'occurrence, peut-être à contrario de ce que j'ai dit sur Wyatt, ce qui m'intéressait c'est chez Billie Holiday, c'était bon d'une part l'attachement que moi j'ai à cet interprète, aussi finalement, l'image qu'elle a, que je trouvais super intéressant, parce que ça correspond aussi assez bien à ce que j'essaye de faire avec l'ONG, c'est-à-dire que moi, mon attachement au jazz, il est extrêmement fort, mais c'est pas la seule musique que j'écoute, c'est pas la seule musique que je joue, c'est pas la seule musique que je produis. Et le jazz n'est pas une musique pure, par essence, c'est une musique qui est née de métissage et qui n'a cessé d'être... de coucher à droite à gauche, quoi. Donc bon, moi j'ai envie que ça continue ce que je trouvais intéressant dans l'image de Billie Holiday, c'est que c'est quelqu'un qui a largement dépassé les frontières du jazz en termes de public, qui parlera aussi bien à Pete Doherty qu'à je sais pas, Mark Turner ou à Amy Winehouse qu'à Enrico Rava, quoi. Donc c'était ça que je trouvais intéressant, c'était qu'il y avait ça dépasse largement ce cadre-là. Et après il y a un troisième facteur que je trouvais super intéressant aussi dans le fait de partir sur un personnage comme celui-là, c'est qu'alors là en l'occurrence Billie Holiday, elle a donné des versions totalement définitives des chansons qu'elle a chantées. Donc c'est un peu contradictoire avec ce que je disais au début, mais j'avais un peu envie de justement de me confronter à ce problème-là aussi. Donc finalement, ça veut dire que, en gros, l'herbe ne repousse pas après son passage. Donc, ça veut dire qu'il faut rebêcher et planter à nouveau du gazon, quoi, ou autre chose. Et donc, du coup, ça nous a obligés à inventer un peu des solutions artistiques pour que on ne fasse pas référence à Billie Holiday dans l'écoute qu'on a de ce programme. Alors, c'est pas forcément évident, parce qu'il y a des gens qui sont très accrochés Enfin, c'est intéressant, parce qu'on se retrouve finalement face à un peu toutes les attitudes vis-à-vis de ce projet-là. Il y a des gens qui sont complètement séduits, parce qu'ils découvrent sous encore un éclairage différent des choses qu'ils connaissent bien. Il y a des gens qui connaissent pas du tout et qui découvrent un monde qui est donc hérité de Billie Holiday, mais en même temps qui les amène ailleurs. Et ça, c'est aussi vachement important, parce que moi, je fais pas de la musique pour les gens qui la connaissent déjà. Je fais de la musique aussi pour que les gens découvrent des univers qu'ils connaissent pas forcément, pour que les gens qui croyaient ne pas aimer le jazz se disent « Tiens, finalement, c'est pas si mal que ça. » On en revient aussi à l'idée de transmission, etc. Voilà, il y a aussi ce côté-là. Dans l'idéal, pour moi, la démarche artistique, un peu le Graal, c'est de faire quelque chose qui soit à la fois accessible à quelqu'un qui n'a aucune idée de quoi on parle, et à la fois qui soit... validé par le musicologue le plus pointu. Bon, je c'est un peu un fantasme, mais ça existe. C'est-à-dire que moi, il y a des musiques, qui ont ce point commun, qui ont toutes ces strates d'écoute. Bon, alors là, évidemment, si je commence à citer des choses, mais je peux en citer facilement. Je peux parler des Beatles, je peux parler évidemment de Bach, de Mozart, de Stevie Wonder, de choses comme ça. C'est des choses qu'on peut entendre au supermarché, mais qu'on peut passer des années à analyser. On peut faire des DVD de 10 heures sur le making-of d'un disque de Stevie Wonder, sur le making-of de Revolver. On n'aura jamais fini de comprendre comment ça marche, quoi. Ça, je trouve que c'est vraiment un truc qui est fascinant, d'arriver à à ce truc-là, quoi. Et donc, je me suis un peu égaré. J'étais censé répondre à une question sur Billie Holiday, ouais. Et donc, oui, ce que je voulais dire, c'était que finalement, ce qui était intéressant, c'était surtout pas d'essayer d'incarner Billie Holiday avec des chanteurs qui allaient aller un peu dans ce sens-là, etc. Même si je m'aperçois que finalement, parfois les gens attendent ça. C'est-à-dire que on est vachement content de voir Jamie Foxx jouer à merveille le rôle de Ray Charles. Bon, au cinéma, c'est plus compréhensible, mais puis c'est vrai que c'est assez impressionnant. Mais moi, c'était pas du tout l'idée. D'ailleurs, c'est pas un biopic qu'on a fait. C'est une réappropriation d'un univers qui a à la fois à voir avec Billie Holiday, mais aussi avec une certaine idée de Broadway, des musiques de films, des standards, des musiques de comédie musicale qui sont un terrain de travail pour moi depuis des années. Et donc voilà, je me disais, bah, il ne faut pas que les chanteurs que je choisisse soient assimilables à Billie Holiday. Donc j'ai choisi un chanteur anglais de blues qui s'appelle Ian Siegel, qui une espèce de gars qui donc, est assez reconnu dans le monde du blues, mais chante pas du tout de jazz habituellement. Et j'ai fait appel à une chanteuse, une jeune chanteuse qui s'appelle Karen Lano, dont je viens d'ailleurs de produire le premier album, qui sortira à la rentrée, et qui est plutôt une chanteuse... c'est une vraie interprète de mélodies et de textes, mais c'est quelqu'un qui serait difficile à classer dans un cadre de pure chanteuse de jazz. C'est plutôt une chanteuse qui oscille entre le folk, la pop, le jazz, etc. Voilà. Donc l'idée, c'est de fabriquer des arrangements autour de ces chansons qui sont écrits par un arrangeur qui s'appelle Alban Darche, et de trouver notre manière de nous approprier cette force. En gros, c'est finalement le côté inspirant de Billie Holiday, c'est qu'elle a réussi à faire des choses tellement extraordinaires avec ses chansons que voilà, finalement ça nous donne envie aussi à nous d'essayer de trouver une manière de nous approprier qui soit la nôtre et pas la sienne. Donc voilà, il y a évidemment son fantôme qui plane tout au long du spectacle, parce que on entend des enregistrements que j'ai récupérés de répétitions chez elle, ou de trucs où elle est juste avec un piano en train d'essayer des choses, où elle se trompe de tonalité. Enfin, il y a des moments assez touchants comme ça, sur lesquels parfois d'ailleurs improvisent les musiciens. Voilà, donc ça c'est un projet qui vient juste de voir le jour, qui évolue au fur et à mesure des concerts, parce que en fait moi je change pas mal de choses au fur et à mesure de ce que j'observe dans le programme. Donc il a énormément évolué déjà en trois concerts. Parce que en fait, c'est aussi ma position, moi, c'est un peu comme un entraîneur qui réfléchit à ce qu'on va faire au prochain match, quoi. C'est-à-dire que donc j'enlève des chansons, j'enlève des parties d'arrangement, j'élague le truc, je fais plus de place aux voix. Enfin, je cherche un peu à voir comment on peut travailler ça, essayer de trouver aussi plus de place pour les musiciens. Donc les choses sont assez évolutives et ce projet-là commence à trouver vraiment un sens qui ressemble à ce que j'imaginais au départ, quoi. There is a kind of compromise. You are master of your endless gentle nudging. A left us polarized. It's hard to talk to enemies. We are. But you don't.
autre projet, justement, on parlait de monuments qui peuvent aussi bien plaire aux musicologues qu'au grand public, c'est Carmen.
Ouais.
Mais une approche un peu particulière, vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec le film que 2000 avait fait il y a un certain temps.
Oui, il y a un certain temps, ouais. Là, en fait. En fait, au départ, alors là, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que moi, ce qui m'intéresse dans ce boulot de directeur artistique de l'ONG, c'est que je suis aussi confronté à des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé en amont. Et donc, en fait, j'ai rencontré les gens de l'Opéra Comique qui m'ont sollicité pour prendre en charge donc cette mise en musique du film. J'ai tout de suite été intéressé par cette idée-là. C'est dans le cadre d'une semaine Carmen qui aura l'Opéra Comique au mois de juin. Et donc, il y a Gardiner qui vient diriger un Carmen. Et donc, nous, on fera le 26 juin, suite à une résidence là-bas, on fera donc cette création qui sera en fait. Alors, moi, j'ai regardé le film un certain nombre de fois, et j'ai tout découpé, j'ai tout timé, toutes les séquences. J'ai vraiment fait un travail assez analytique sur le film, et après, en fait, j'ai attribué à chacun des musiciens, c'est un film qui fait 56 minutes, il y a 10 musiciens, donc voilà, j'ai divisé en parts égales le gâteau, en réfléchissant bien à qui j'allais donner telle scène, etc. Et donc je leur donne un certain nombre d'échéances sur la composition de leur partie. Charge à moi, mais aussi à eux, d'harmoniser tout ça entre eux, en sachant... Il y a un peu une idée de cadavre exquis, c'est-à-dire que il faut savoir ce qui vient avant et ce qui vient après, mais on peut aussi se permettre des ruptures, on peut se permettre... Bon, voilà, donc l'idée, en fait, c'est à la fois... d'avoir 10 points de vue différents sur un même sujet, et à la fois d'avoir un point de vue global. C'est un peu toute l'histoire de ce que je veux en fait faire avec l'orchestre. C'est-à-dire qu'il y a dans cet orchestre, il y a des gens qui sont issus de conceptions totalement différentes du jazz en général et de la musique. Et c'était ça qui m'intéressait, c'était de mettre à côté, sur scène, côte à côte, un saxophoniste qui vient plutôt de la musique contemporaine et du free, et un mec qui a bouffé du bebop depuis qu'il est en âge de parler, quoi. Et c'est intéressant parce que ça génère aussi des discussions, ça génère des intérêts, des curiosités, et moi j'avais envie aussi qu'il y ait cette espèce d'esprit un peu de laboratoire. Bon voilà, donc le projet Carmen, c'est un peu ça, et c'est aussi... à moi de faire le lien entre tous ces mondes et toutes ces visions différentes de Smith, donc de Carmen. Et il y aura comme invité aussi Benoît Delbecq, donc qui lui est pianiste, aussi qui se bidouille pas mal avec l'électronique, etc. Et l'idée de faire intervenir Benoît dans ce projet, c'était aussi de lui donner un peu le rôle de fil conducteur et de lien entre les différents univers. Et il y a aussi Bernardo Sandoval que j'ai invité à se joindre à nous pour deux, trois moments de chansons qu'il va chanter. Alors là, c'est marrant parce que j'ai pensé à lui parce que, je ne sais pas si tout le monde connaît Bernardo Sandoval, mais c'est un chanteur de flamenco, mais qui est vraiment dans des univers très personnels par rapport au flamenco. C'est quelqu'un qui a bien pratiquer la tradition, mais qui maintenant fait une sorte de blues un peu... il fait vraiment le truc à sa manière. C'est entre autres lui qui a fait la musique du film de Poirier qui s'appelle Western. Une espèce de blues un peu rural. Flamenco, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré dans la rue. Il faisait la manche il y a 25 ans à Avignon et je suis resté complètement stupéfait devant son talent. C'est un électron libre, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout... il n'a pas vraiment de plan de carrière, il fait les choses un peu comme ça arrive. Et j'avais envie, en fait, que ce soit lui, finalement, qui symbolise une vision un peu décalée de l'Espagne. Parce que j'avais envie d'éviter aussi, dans l'écriture, qu'on soit dans cette espèce d'obligation d'avoir... un côté hispanisant qui pour moi est une contrainte en fait plus qu'une liberté quoi. Je trouve que c'est très difficile d'aborder les éléments rythmiques et harmoniques de des musiques qui évoquent l'Espagne sans tomber dans des choses un peu carte postale ou un peu trop contraignantes. Et je trouvais que c'était intéressant de balancer Sandoval un peu dans le monde de notre orchestre, au contraire, qui allait lui donner un habillage peut-être électronique. Enfin, lui, il va vraiment venir guitare-voix, il va chanter des choses très roots que nous, on va retravailler. Voilà, donc il y aura un mélange de choses improvisées, de choses très écrites, voilà, sur un programme qui dure à peu près, qui dure exactement 56 minutes 20. Voilà.
D'autres projets, Daniel Ivinet, qui est par rapport à cet orchestre ?
Ouais, je suis en train de mettre sur pied là, le projet de la saison prochaine, donc 2010. C'est un peu tôt pour en parler, je suis vraiment dans la phase de... J'aurais terminé de le façonner à la fin du mois, donc c'est bientôt. Je suis parti sur quelque chose de très complémentaire de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, à savoir qu'en fait, je suis parti sur un projet dont le sujet principal est le rythme et le rapport entre le jazz et la danse, mais pas la danse au sens chorégraphique, enfin ça peut être aussi le cas, mais la danse au sens de la pulsation et de l'envie. Enfin, en fait, l'idée c'est de réconcilier le corps et l'esprit à travers une certaine vision du jazz, voilà, enfin une vision multiple plutôt du jazz. Donc en gros, il y a un côté un peu... De trouver des petites solutions rythmiques à travers tous les talents des gens de l'orchestre, par exemple je sais pas, j'envisageais le début du... Hier j'étais en train de travailler là-dessus avec mon ordinateur dans le bois de Vincennes, et j'envisageais par exemple d'avoir Evry Serre, qui joue du piano préparé, commencer le spectacle en lançant des balles de ping-pong sur son piano, qui serait sonorisé par un des membres de l'orchestre, qui mettrait en boucle ce genre de choses. Et en fait, je voudrais que tout le programme, une heure et quart ou une heure et demie de musique, soit du rythme. Alors du rythme, ça peut être... le rythme du swing des années 30, ça peut être le rythme de la house, ça peut être le rythme de choses complètement abstraites.
Sous toutes ses formes, le rythme.
Voilà. Donc en fait, il y a une espèce de traversée comme ça, d'une certaine... je veux que ça soit très lié au jazz et à son histoire. Donc en fait, pour le moment, je suis dans une idée d'une espèce de traversée... à fond les manettes de l'univers du jazz de toutes ces époques, à travers à la fois de l'écriture, des références à des choses qui ont existé, à des compositeurs importants, etc. Et tout ça mis en lumière par des solutions rythmiques et de timbres qui soient à la fois liées à des choses complètement acoustiques, mais aussi à l'électronique, qui puissent faire en sorte que, par exemple, un quatuor de saxophone prenne la fonction d'une batterie, parce que l'un va être la grosse caisse, l'autre la caisse claire, l'autre le charlet et l'autre la cymbale. Enfin bon, il y a plein de solutions comme ça auxquelles je suis en train de penser. C'est pas complètement éloigné d'un truc comme Stomp, par exemple. C'est-à-dire, enfin, je cherche pas du tout à faire le stomp du jazz, mais il y a une idée un peu comme ça, d'un truc où même quand des mecs jouent aux cartes, il y a du rythme dans leur manière de jeter les cartes sur la table. Je trouvais ça que c'était intéressant, et je trouvais que c'était intéressant de voir aujourd'hui comment on pouvait finalement réintroduire dans le jazz cet élément de danse qui était en fait présent. À ses débuts, quoi. Voilà, donc c'est un vaste chantier pour le moment. Donc là, je donne un peu les différents pôles, mais j'ai encore plein de choses à définir. Voilà, ça sera prêt. Le projet sera prêt dans ma tête à peu près fin avril. Et puis je commencerai à mettre tout en place sur le choix des arrangeurs, des invités, etc. Au courant mai, et on répétera ça septembre-octobre pour que ce soit prêt au début de l'année, en fait, 2010. Voilà.
Bon, bien, bon courage pour tous ces projets.
Merci.
Merci Daniel Ivinet. Te recuerdo, Amanda.
la calle mojada, te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Te recuerdo Amanda, la calle mojada. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Ibas a encontrarte con él, 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 son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Con él son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, te he vuelto al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos.
Cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.